vraie place na vie, n'esprit na motema, mute bachi la mouina, ma seul moto na ya ki n'avance. Na ina pesa dans le fond de ma trop d'amour, mais boli moi dans le fond, moi comme il m'avant, boli moi comme il s'y m'a boli, chéri anticipé ma mort avant. Mercedes c'est ma avance. Y'a nene na goma avance. Bamba na balili na pe avance. Bamba na nana a trop d'avance.
Doris Bembe.
Avant l'heure de valeur. Bamba na balili na pe avance.
De la paix. Il est 7 heures. Le journal de 7 heures. César Yao.
Bonjour à tous. Le sommaire de ce mardi 7 heures. Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Begré-Mambé, a annoncé hier, lundi 18 décembre, la finition des travaux de la voie de la Y4 et une partie du quatrième pont en fin de décembre 2023 lors d'une visite de terrain. Le projet de loi de finances rectificative portant budget de l'État pour l'année 2023 a été adopté en fin de semaine dernière à Yamoussoukro à l'unanimité des sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières. L'on note une hausse globale nette de 814,4 milliards de francs CFA. Dans l'actualité internationale, après la meurtrière explosion qui a enflammé un entrepôt d'hydrocarbures à Conakry, tué au moins 14 personnes et ravagé un quartier, la solidarité s'organise. La réponse de l'État se met en place tant bien que mal. Jean-Claude Comé passera en revue les titres des journaux ivoiriens du jour et puis en fin d'édition, ce roi d'Amps recevra dans le cadre de l'invité de la rédaction Dr Patrice Saraka, secrétaire général et porte-parole du COGEP pour parler des décisions du deuxième congrès du Congrès panafricain pour la justice, l'égalité et la paix. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Dans le cadre du suivi des travaux du projet de mobilité urbaine d'Abidjan et des infrastructures routières liées à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, eh bien, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a effectué hier lundi une visite des chantiers. Au menu de celle-ci, les travaux de dédoublement de la sortie est d'Abidjan et les voies d'accès au stade olympique Alassane Ouattara des Bempe, les travaux de construction de la voie de contournement de la ville d'Abidjan, Y4, le quatrième pont et le corridor BRT Yopougon-Bingerville. On fait le point avec Jean-Mélène Biti.
Sur l'état d'avancement de la Y4, Robert Begré-Mambé se veut rassurant.
Le tronçon entre la route de Bingerville et la route d'Alépé, tout le dispositif est en place. Il reste un seul ouvrage pour lequel nous sommes en train de faire les remblais d'accès. De la route de Bingerville jusqu'au stade de Bempe, avant la fin de l'année, on sera largement en possession de cette route pour la CAN.
Le tronçon Ebimpe Autoroute du Nord lui connaît un retard. Il sera tout de même ouvert à la circulation. Robert Begré-Mambé.
Les travaux ont commencé pour les grands terrassements. Ce tronçon sera disponible pour la CAN en terre consolidée. Il n'y aura pas de bitume. Tous ceux qui viendront de l'intérieur du pays, au lieu de venir jusqu'à Yopougon, pourront à partir du PK24 rallier directement le stade de Bempe en toute sécurité.
Concernant le corridor du BRT et du quatrième pont dans la commune de Yopougon, Robert Begrumombe indique que ces infrastructures viendront régler les problèmes de mobilité.
Nous allons privilégier la circulation du trafic pour que les Ivoiriens voient les grandes améliorations que les grands travaux engagés par les chefs de l'État apportent au quotidien de ces populations. Les Ivoiriens verront la fluidité du trafic, c'est ce qui est visé. Et nous pensons qu'à la fin du mois de décembre, ces deux grandes voies de circulation seront offertes à la population. Comptez sur nous, la pression est là en permanence.
D'un coût total de 482,6 milliards de francs CFA, le BRT, long de 21 km avec 21 stations, impactera les communes de Yopougon, Atékoumbé, Adjamé, Plateau, Cocody et Benjerville.
Direction la région du Bonkani où le PNUD renforce les capacités techniques et matérielles des cellules civilo-militaires mises en place par le gouvernement ivoirien pour la réforme du secteur de la sécurité dans les régions du nord du pays. De Bouna, la correspondance de Jérôme Kouassi.
Alassane Camara, chargé des programmes en prévention des conflits et cohésion sociale au PNUD Côte d'Ivoire.
Savoir quel levier actionner pour les rendre le plus opérationnel possible et prévenir durablement l'extrémisme violent et renforcer la cohésion civilo-militaire dans les régions du nord de la Côte d'Ivoire.
Face à ce défi, il faut une franche collaboration entre les communautés et les FDS, rappelle Krako Kobilan-Jacques, président de la cellule civilo-militaire de Doropo.
Parce que pour qu'il soit fort, pour pouvoir bouger hors de nos frontières, ce phénomène lié au terrorisme, il va falloir que nous, en tant que communauté, nous puissions collaborer avec elles sans condition.
Les femmes vulnérables ont encore été appuyées en matériel roulant par le PNUD pour sortir leurs récoltes des champs et fixer à domicile leurs enfants, cible le recrutement des groupes armés. Lantan Abiba de la CCM de TNI.
Pour ne pas avoir des problèmes avec les propriétaires des bœufs, nous pouvons soutenir nos enfants pour ne pas qu'ils rejoignent les extrémistes violents.
Toutefois, l'insuffisance de moyens financiers et matériels limite les bons résultats sur le terrain, plaide Sawadogo Suleiman, secrétaire général du CCM de TNI.
Au défaut des financements, il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas d'équipement, on n'a même pas de local du CCM, donc ça fait que nous ne sommes pas bien connus.
Cette opération vise à redynamiser les cellules civilo-militaires par le PNUD pour sa nouvelle initiative qui consiste à prévenir et répondre à l'extrémisme violent dans le corridor de l'Atlantique avec la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. Jérôme Kouassi Krou, Bouna, Radio de la Paix.
Restons toujours dans le nord du pays, la région. Le préfet de région et du département d'Odienné, Fami Kouame Riné, a procédé récemment au lancement de la 9e édition de l'opération Épervier. Une opération qui consiste à renforcer l'indice de sécurité le long des frontières ivoiriennes. Des détails avec Bakary Touré Labas, notre correspondant dans le district autonome du Dengueulé.
Lors du lancement de cette 9e édition de l'opération Épervier, le préfet des régions, préfet de Diéné, a lancé ce vœu pieux à l'endroit de la Grande Muette. Fami Kouame Riné.
Je souhaite qu'à la fin de cette opération, nous fassions un bilan, qu'on sache que le taux de criminalité, le taux d'agression, de toutes sortes de trafic est fortement diminué.
Aux représentants de l'État d'évoquer ce tout aspect.
Également, que nos frontières, que surveillent avec beaucoup de courage les fascis, soient également un lieu de sécurité où les populations peuvent vaquer quotidiennement et dans la paix à leurs activités.
Pour sa part, Tano Narcisse, l'adjoint au préfet de police de Diéné, a, au nom des forces de défense et de sécurité, exprimé ses différentes certitudes.
Nous allons patrouiller à travers la ville. Nous sommes à l'orée des fêtes, comme M. le préfet l'a dit. Il faut prendre de bien meilleures dispositions pour que les gens dorment en paix, en toute quiétude. Par des patrouilles, après avoir regardé qui est bon, ceux qui sont recherchés là, on les met à disposition de M. le procureur.
On prépare à cet événement. Toutes les unités présentes dans le district autonome de Dengueulé, Bakary Touré Labas, Odienné, Radio de la Paix.
Le projet de loi de finances rectificative portant budget de l'État pour l'année 2023 a été adopté en fin de semaine dernière à Yamoussoukro à l'unanimité des sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières. Le ministre des Finances et du Budget Adama Koulibaly est revenu au thème des travaux sur les éléments ayant entraîné les changements dans ce budget.
C'est un exercice obligatoire pour le gouvernement lorsqu'il y a un bouleversement dans l'équilibre budgétaire de venir présenter au Parlement les changements qui ont été apportés. L'année 2023 a été une année un peu particulière. La Côte d'Ivoire a bénéficié d'un programme économique et financier avec le Fonds monétaire international, avec des ressources conséquentes qui accompagnent donc ce programme économique, 603 milliards de francs CFA pour l'année. Nous avons également bénéficié d'appuis budgétaires venant de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, mais aussi de la BADS et de l'Agence française de développement. Ce sont des éléments qui viennent donc conforter les recettes de l'État d'une manière générale. Mais parallèlement à ça, nous avons eu à faire face à des dépenses d'investissement à hauteur de près de 500 milliards de francs CFA pour investir dans des secteurs qui peuvent améliorer la qualité de vie de nos populations. Nous avons eu également à faire des dépenses de soutien à nos cotonculteurs à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Nous avons apporté également un soutien à notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Nous avons poursuivi également les actions visant à atténuer l'impact de la guerre en Ukraine sur nos populations. Nous avons soutenu les meuniers pour faire en sorte que le prix du blé soit amorti de manière à ce que le prix du pain ne puisse pas augmenter. Voilà tout ce qui a entraîné en fait les changements dans le budget.
Voilà, à l'instant, le ministre des Finances et du Budget Adama Koulibaly. Agriculture à présent, plusieurs acteurs de la filière aquacole des régions du Bélier, de Gbeke et du district autonome de Yamoussoukro viennent d'être formés à Boaké. Cette formation initiée dans le cadre du programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire avait pour objectif d'outiller les apprenants sur les métiers de la production afin de soutenir la chaîne de valeur. Alors, aquacole, le reportage de Joseph Fassalé, notre correspondant régional dans le Québec.
Des modules spécifiques ont été dispensés aux apprenants issus de différents corps de métier de la chaîne de valeur de l'aquaculture. Docteur Niamien Kadio-Henri Joël, chargé d'études au programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, en abrégé PSTACI.
Au niveau des pisciculteurs, la maîtrise de l'itinéraire technique, la gestion de l'eau dans ce contexte de changement climatique sur les techniques de nourrissage des différents poissons. Au niveau des marieuses, nous initions de formation de contact simplifiée, de techniques de traitement et de conservation post-pêche. Au niveau des aménagistes, l'étude des différents bas-fonds, comment faire la prospection des sites, comment arriver à dessiner un plan d'aménagement pour un promoteur. Quant aux monteurs de filets, leur formation apportée sur le découpage des filets, l'assemblage des différents éléments du filet.
Dans leur ensemble, les apprenants se disent désormais outillés.
On est Pilar Diouf Ismaël, le secrétaire général de la chute coopérative de la piscicole du centre Boaké. Cette formation va vraiment nous permettre d'être efficace.
À Kissi Pauline, la présidente des marieuses de Boaké. En tout cas, je suis très satisfaite. Aujourd'hui, j'ai appris comment gérer mon agent, comment recevoir mes clients, tout. Ça va me permettre d'être dynamique, efficace.
Retenons que le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire va permettre à terme de stimuler l'investissement dans le secteur aquacole et aussi développer la chaîne de valeur de la filière. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Juste un mot de l'actualité internationale en Guinée-Conakry. Une meurtrière explosion a enflammé un entrepôt d'hydrocarbures à Conakry, tué au moins 14 personnes et fait 190 blessés hier. Selon le dernier bilan communiqué par le gouvernement, la solidarité spontanée a débuté après des appels aux dons lancés par des anonymes sur les réseaux sociaux. De son côté, le gouvernement, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoul Diallo, coupe court à toute polémique en martelant que d'autres lieux de stockage sont en cours de construction et que des dispositions ont été prises pour éviter toute pénurie. En sport football, avant le coup d'envoi de la 34e édition de la CAN 2023 en terre ivoirienne, prévue, vous le savez, du 13 janvier au 11 février 2024, la Confédération africaine de football a annoncé le jeudi 14 décembre dans un communiqué l'ouverture de la vente des billets au guichet. Hormis, n'est-ce pas, la vente en ligne qui a déjà permis l'écoulement de plus de 30 000 tickets. Bien, cette vente de billets au guichet permettra aux populations vivant sur le territoire national de les acquérir aisément, n'est-ce pas, Linda Balier?
En effet, une dizaine de villes et communes ont été choisies par la CAF pour la commercialisation de ces billets. Et les villes et communes choisies sont la capitale politique Yamoussoukro avec 5 points de vente, Boaké en a 7, à Korogo, la cité du Poro. Les amoureux du football pourront s'offrir les tickets dans 5 lieux de vente. Idem pour San Pedro, la cité balnéaire du sud-ouest ivoirien. Une autre ville balnéaire qui n'a pas été oubliée, c'est Grand Bassam, avec un seul lieu de vente du précieux sésame. Pour cette opération de vente, le district d'Abidjan se taille la part de lion. Tenez par exemple à Cocody, les habitants de cette commune pourront avoir ces billets dans 6 points de vente. Au plateau, ce sont 4 points de vente qui ont été choisis. Béjarville et Agnama ont 2 points de vente chacun. Et les populations de Yopougon pourront se procurer ces billets dans 6 points de vente répertoriés. Quant à Sangon, la commune voisine, c'est 1 point de vente qui leur est dévolu. Idem à Atekoubé. À Adjamé, par contre, ce sont 3 points de vente qui sont prévus. Pareil qu'à Abobo, où 3 points de vente seront dédiés aux amoureux du ballon rond. Côté prix des tickets, pour que chaque match draine du monde, la CAF et le COCAN ont décidé qu'il faudra débourser 5 000 francs CFA pour la catégorie 3, 10 000 francs CFA pour la catégorie 2 et 15 000 francs CFA pour la catégorie 1. Rendez-vous est donc pris pour la célébration de la plus grande messe du football africain, la CAN de l'hospitalité, dès le samedi 13 janvier 2024 au pays de Nanamboigny.
Voilà, merci infiniment Linda Bali. Et à présent, la revue des titres des journaux ivoiriens du jour avec Jean-Claude Comé. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour César, bonjour à tous. Après le rendez-vous manqué du samedi 16 décembre dernier pour cause de suspension de son congrès extraordinaire par décision judiciaire, le bureau politique du PDC-RDA se tient ce mardi 19 décembre à son siège et c'est cette importante rencontre qui est le sujet politique phare de la plupart de nos confrères de la presse écrite. Les choses vont vite car, constate Soir Info, le PDC ne veut pas perdre du temps après l'empêchement de son congrès extraordinaire. Situant sur les enjeux de cette réunion d'aujourd'hui, Fatine Tematin prédit que ça sera un bureau politique de vérité. Notre voix souligne que la nouvelle date du congrès extraordinaire sera au cœur du débat et c'est ce que dit autrement le Nouveau Réveil quand il s'interroge PDC-RDA, le congrès extraordinaire électif avant Noël. Le journal parle de 4 issues possibles de ce bureau politique quand son confrère Denis Hermande envoie 2, à savoir une reprise rapide du congrès extraordinaire ou une prolongation du mandat du président intérimaire Copli Boni, dont l'appel aux militants du PDCI est relayé par l'Inter. Ce journal donne aussi des nouvelles de Sié Koulibaly et Messou Kablan, deux lieutenants de Guillaume Soro, arrêtés le 18 décembre, novembre, peut être précis, dernier donc à Odiené. Et bien, selon ce journal, ces deux proches du leader du GPS, Génération et Peuple Solidaire, auraient été auditionnés. Autre parti politique dont parlent les journaux, c'est le RHDP qui a désormais, selon le Patriote, ses piliers pour sa victoire prochaine. Et ce sont, pour ce journal, les présidents des jeunes et des femmes. Deux partis parlant des femmes notamment, le Matin note que celles-ci donnent le ton de la cohésion, le rassemblement à la discipline au sein du parti au pouvoir. Autre organisation similaire de femmes qui intéresse aussi le temps et la voix originale, c'est la Ligue des femmes du PPACI. Et ces journaux tirent les leçons de l'élection du week-end écoulé. Ce chapitre politique se clôt aussi par cette analyse que fait Génération Nouvelle, qui estime que ça soit donc le RHDP, le PDCI, le PPACI et bien d'autres partis politiques, tous souffrent de la même maladie, à savoir la démocratie interne. Infrastructure routière, le Premier ministre Mambé était hier sur les chantiers du pont de Yopougon. La voie de contournement Y4 est celui du bus rapide transit. Eh bien, selon le Patriote, le chef du gouvernement a déclaré qu'il espère que le pont de Yopougon et la Y4 pourront ouvrir d'ici la fin de l'année. L'Avenir n'hésite pas à écrire en une que Mambé annonce l'ouverture du 4e pont et de la Y4 pour la fin décembre. Les travaux donc pratiquement terminé, fait remarquer le rassemblement pour les deux ouvrages. En ce qui concerne le BRT, les travaux démarrent en 2024, précise Fratin T.
ce matin. Merci.
Voilà, à l'instant, la revue des titres des journaux ivoiriens du jour avec Jean-Claude Comé. Dernier mouvement de ce mardi 7h. Soro Adams reçoit dans le cadre de l'invité de la rédaction Dr. Patrice Saraka, secrétaire général et porte-parole du COGEP pour parler des décisions du deuxième congrès du Congrès panafricain pour la justice, l'égalité et la paix.
Bonjour, docteur Saraka Patrice.
Bonjour, monsieur Soro Adams.
Le rideau, donc, est tombé sur le deuxième congrès du COGEP, votre parti, à Abidjan. Qu'est-ce que les Ivoiriens devraient retenir de ces assises?
Merci, monsieur Soro. Ce qu'il faut retenir de ce congrès, c'est que le COGEP a fait le bilan de son action politique depuis 4 ans, depuis 2019, où Charles Begoudé a été élu à la tête du parti. On a fait ce bilan et nous sommes projetés pour un COGEP plus fort. Et l'un des points saillants fut l'élection du président du parti. Et Charles Begoudé a été réélu à la tête du parti. Et le deuxième organe de notre parti, qui est le Conseil de contrôle de discipline et d'éthique également, a vu l'élection de son nouveau président. C'est Dr. Étienne Aristide qui est le président de l'organe de contrôle et de régulation du COGEP. C'est donc un COGEP renouvelé qui, sur la base du passé, du bilan de son action des 4 ans, se projette donc à faire de ce parti-là l'un des principaux partis de Côte d'Ivoire. Et les congressistes ont décidé que 2025 sera une année charnière, une année importante pour notre parti et il faudra compter avec le COGEP. Et ils sont même allés jusqu'à dire que le président du parti, au regard de tout ce que nous avons pu voir, au regard de sa posture d'homme d'État, il devrait s'apprêter, en tout cas, à répondre favorablement à leur demande, à savoir qu'il peut bien s'engager pour 2025. Et on attend sa réponse.
S'engager pour 2025 comme candidat à l'élection présidentielle?
Mais pourquoi pas? Les congressistes pensent que Charles Begoudé peut bien être candidat à l'élection présidentielle. Le Congrès n'a pas décidé d'aller aux élections de 2025, mais il dit que Charles Begoudé peut bien être candidat en 2025. Donc, c'est une décision majeure de ce Congrès et nous attendons la réponse du président Charles Begoudé.
Telle est la substance de ces assises du deuxième Congrès du COGEP.
Oh oui, il y a certes cette décision majeure, mais il y a aussi que le thème du Congrès était quel COGEP face aux mutations sociales, politiques et économiques nationales et sous-régionales. Nous avons estimé que la Côte d'Ivoire et la sous-région sont en pleine mutation. Au niveau interne, nous avons estimé que plus que jamais, les Ivoiriens, au-delà de toute considération politique, ethnique et religieuse, devraient se rassembler. Et le COGEP, avec son nouveau président, ont pris l'engagement d'être ce pont-là, d'être ce catalyseur-là pour rassembler les Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de rassemblement. Donc, tous les patriotes de tous les camps, qu'ils soient RHDP, qu'ils soient PDCI, qu'ils soient PPAC, qu'ils soient COGEP, Charles Begoudé et le COGEP ont pris l'engagement de faire en sorte que la Côte d'Ivoire plurielle se retrouve dans le Conseil des Nations. Parce que la sous-région, le monde sont en pleine mutation. Les questions de sécurité, les questions de développement, les questions économiques, les questions culturelles, autant de défis que nous devons relever ensemble et non en rang séparé. Et c'est pour cela d'ailleurs que, en marge de notre congrès, nous avons organisé aussi un mini-sommet sur le panafricanisme. Les participants, les délégations étrangères venues de plusieurs pays d'Afrique ont convenu que pour relever ces défis-là de défense, de sécurité, et j'en passe, pour relever ces défis, l'Afrique doit être plus que jamais un véritable marché de libre-échange où les citoyens, les biens et les personnes, évidemment, se déplacent librement. Parce que, M. Soro, les visas coûtent non seulement très cher, les barrières douanières font trop de tort à nos économies et nous pensons que l'Afrique doit être un véritable espace de libre-échange. Et donc, il ne s'agit pas, bien sûr, de dégager des maîtres pour aller à la recherche d'autres maîtres. Il s'agit de considérer l'Afrique comme un pôle qui doit fonctionner selon ses propres paradigmes. Voilà un peu quelques éléments majeurs des décisions issues de ces assises-là. Et ces leaders politiques de ces pays-là ont convenu de se réunir dans le cadre d'une conférence des présidents. Et un comité de suivi a été mis en place et ils ont aussi décidé que chaque année, un mini-sommet plus élargi devrait se tenir. Et le prochain aura lieu en 2024 en République centrafricaine.
Je vous remercie, docteur Saraka Patrice.
Merci, monsieur Soradams.
Je rappelle que vous êtes...
Je suis le secrétaire général du COGEP porte-parole.
Voilà, docteur Patrice Saraka, secrétaire général et porte-parole du COGEP, était avec Suroa Adams dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui referme les pages de ce journal, le rappel des titres. Le premier ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a annoncé hier lundi la finition des travaux de la voie de la Y4 et une partie du quatrième pont fin de décembre 2023 lors d'une visite de terrain. Le projet de la loi de finances rectificative portant budget de l'État pour l'année 2023 a été adopté en fin de semaine dernière à Yamoussoukro à l'unanimité des sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières. L'on note une hausse globale nette de 814,4 milliards de francs CFA. Enfin, dans l'actualité internationale en Guinée, après la meurtrière explosion qui a enflammé un entrepôt d'hydrocarbures à Conakry, a tué au moins 14 personnes et ravagé un quartier, la solidarité s'organise, la réponse de l'État se met en place tant bien que mal. Fin de cette première édition de l'actualité sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous, 8h.